Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Le peuple Wurundjeri de la nation Kulin ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes ainsi que les insulaires du détroit Torres auxquels nous diffusons.
SBS, a world of difference. You're with SBS French on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Mesdames et messieurs, bonjour, il est 13h, nous sommes le samedi 12 mars 2022. Christophe Mallet pour vous accompagner au cours de 7h en français sur Radio SBS. Au programme aujourd'hui, nous aurons l'actualité, le sport également et nous partirons pour l'année 1930, le début de la révolution indienne et un certain Mahatma Gandhi. Et nous partirons également à la frontière polonaise avec une journaliste indépendante sur place qui nous racontera les conditions du conflit avec l'Ukraine. Mais tout de suite, on passe au journal. Et on débute avec les grands titres de l'actualité pour aujourd'hui. Scott Morrison qui est en visite dans la région inondée de Hawkesbury à Sydney, alors que toute la région de l'Est, la côte Est de l'Australie, qui pense ses plaies après donc toutes ces inondations. Les inquiétudes qui grandissent quant au fait que la Russie ait menti au sujet de l'Ukraine face au Conseil de sécurité de l'ONU pour justifier les poursuites de son plan d'invasion. Et en sport, on va le voir dans ce journal, victoire de la France sur le Pays de Galles dans le quatrième match du tournoi des Six Nations. Débute donc ce journal avec les efforts de nettoyage qui s'intensifient dans toute la Nouvelle-Galles du Sud et le Queensland à mesure que les eaux des crues se retirent et que l'étendue des dégâts est enfin établie. Plus de 6000 membres des forces de défense australiennes sont désormais sur le terrain dans les deux États pour aider les bénévoles et les conseillers locaux. 1400 membres du personnel de la défense ont été déployés dans le Queensland et un peu plus de 4500 en Nouvelle-Galles du Sud. Le Premier ministre de Nouvelle-Galles du Sud, Dominic Perrottet, a déclaré que le gouvernement mettait toutes les forces à sa disposition et à disposition des gens pour rétablir l'ordre et nettoyer les dégâts. On l'écoute.
Je veux juste assurer tous les résidents, toutes les communautés right across here, we are putting everything, every resource we can to get this cleanup conducted as quickly as possible. It's obviously not going to take days, it's going to take weeks, if not longer.
Voilà, donc Dominique Perrottet, le premier de l'État de Nouvelle-Galles du Sud. Le Premier ministre australien Scott Morrison a dû répondre à des questions sur les raisons pour lesquelles un état d'urgence national avait été déclaré et décrété pour la Nouvelle-Galles du Sud et non pas pour le Queensland. Il dit que c'est simplement parce que le Queensland ne l'a pas demandé. On l'écoute.
That's the way it works. If the state wants it to be done, then they can request for it to be done, and no such request was made by the Queensland government. The first person to talk about putting it in place was the federal government.
Voilà, donc le Premier ministre Scott Morrison. Ce n'est plus 9, comme initialement prévu, mais 13 personnes qui auraient été libérées de l'hôtel Park Hotel à Melbourne. 13 réfugiés, dont certains étaient là depuis très longtemps et enfin retrouvés. Mais ils ont tous enfin retrouvé la liberté. Le Park Hotel, je vous le rappelle, c'est l'hôtel où avait séjourné Novak Djokovic un peu plus tôt cette année dans cet imbroglio autour de l'Open d'Australie. On écoute Jen Salmon, elle est militante et donc elle défend les réfugiés de longue date.
Why they always pick the squeaky wheel. I'm wondering why they do it at the dead of night when there are no social workers on call. I'm wondering why they do it when there can't be any banking, any Medicare. I'm amazed by the viciousness of this government. After so long, nearly 10 years, to turn around and release a handful at a time and pretend it's difficult to do. It's not.
L'étau qui se resserre toujours encore un peu plus autour de la capitale ukrainienne Kiev. L'armée russe progresse doucement, mais progresse. La ville de Dnipro a été touchée hier, quant à elle, par des bombardements. C'est une ville au centre du pays qui est d'ailleurs le symbole de la séparation entre l'Est et l'Ouest de l'Ukraine. Dans un nouveau message vidéo, le président ukrainien Volodymyr Zelensky accuse une nouvelle fois la Russie d'attaquer les civils. Il accuse également les autorités russes d'avoir engagé des miliciens syriens. On l'écoute.
En raison des bombardements constants dans certaines parties des régions de Soumy, Kiev et Donetsk, il n'y a pas d'électricité. Oui, il y a des problèmes de chauffage. Pas d'eau, pas de gaz. C'est une catastrophe humanitaire. Catastrophe humanitaire, deux mots qui sont devenus pleinement synonymes d'un autre nom, la Fédération de Russie. C'est une guerre patriotique, c'est une guerre avec un ennemi très têtu, qui ne fait pas attention aux milliers de ces gens tués, aux soldats tués, qui rassemble maintenant des réservistes et des conscrits dans toute la Russie pour les jeter dans l'enfer de cette guerre, qui a décidé d'embaucher des mercenaires contre nos citoyens, des assassins de Syrie, d'un pays où tout a été détruit par les occupants, comme ils nous le font subir à nous, à notre Mariupol, notre Kharkiv, Oktyrka, Chernigiv, Volnovakha ou Izium.
Voilà, donc le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Toujours sur ce sujet, les États-Unis se disent préoccupés par le fait que, lors d'une réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui d'ailleurs avait été convoquée par la Russie, la Russie est simplement menti d'avoir trouvé des activités biologiques en Ukraine lors de son invasion. L'envoyée américaine à l'ONU, Linda Thomas-Greenfield, a déclaré que l'Ukraine n'avait pas de programme d'armes biologiques ni de laboratoire de ce type soutenu par les États-Unis. Elle a déclaré au Conseil de sécurité que la Russie avait l'habitude de porter de fausses accusations. On l'écoute.
And we're deeply concerned that Russia's calling for this meeting is a potential false flag effort in action. Exactly the kind we have been warning about, including from Secretary Blinken here in the Security Council last month.
C'est l'envoyée américaine à l'ONU, Linda Thomas-Greenfield. Toujours en Ukraine, la ville méridionale assiégée de Mariupol, direction donc cette ville, le conseiller municipal principal affirme qu'au moins 1500 civils ont été tués à la suite des bombardements russes et un blocus qui dure depuis plus de 12 jours, qui aurait laissé des centaines de milliers de personnes prises au piège. L'adjoint au maire de Mariupol, Sergueï Orlov, affirme que la situation humanitaire est de plus en plus mauvaise. On l'écoute.
Without any utility, without connection, without everything for 8 days, they do not know about this news anything. And you should know that 5 to 7 days before, the best wish of our people was to stop somehow the war, to stop bombing, to stop shelling. But today and yesterday, their best wish is to find some food and water.
Voilà, donc pour la ville de Mariupol et l'un de ses adjoints au maire, Sergueï Orlov. Direction maintenant Odessa, la ville ukrainienne qui a pour longtemps été vue comme l'une des cibles des autorités russes. La population se prépare tant bien que mal à l'arrivée des troupes de Vladimir Poutine. Reportage sur place de Cléa Brothers pour RFI.
La ville se prépare à un assaut de l'armée russe. Les gens ici suivent de près la situation à Mykolaïv, la dernière grande ville avant Odessa. Tous les jours arrivent ici des enfants venus des villes bombardées de la côte. Ils viennent de Mariupol, Kherson et Mykolaïv. Les magnifiques façades colorées, tantôt vertes, jaunes, orangées, style 19e siècle de la ville, sont toujours là, mais à leurs pieds, des barricades bouclent certains axes. Elles sont notamment faites de sacs de sable, du sable récolté sur les plages normalement réputées et prisées pendant les vacances. Ce n'est bien entendu plus le cas aujourd'hui. Les bâtiments se sécurisent, entre autres grâce à l'aide des civils devenus militaires volontaires. Ils sont nombreux et déterminés. Sur un grand nombre d'immeubles, on peut voir le drapeau ukrainien bleu et jaune peint à la main, revendication évidente de l'identité de la ville, car ici, on parle normalement russe, mais les gens que l'on interroge tiennent à parler ukrainien. Au lieu d'un spasiba, ils préfèrent un djakuyu, ce qui veut dire merci en ukrainien.
Et c'était Cléa Brothers pour RFI. 13h09, on va faire un point sur le Covid maintenant à travers le pays. Tout d'abord, la Nouvelle-Galles du Sud qui a enregistré une nouvelle baisse du nombre de cas de Covid avec 12 850 nouvelles infections et 4 autres décès dans les dernières 24 heures. L'État, je vous le rappelle, avait signalé 14 000 nouveaux cas vendredi et 16 000 jeudi. Dans le Victoria, il y a eu 11 nouveaux décès donc liés au Covid-19 et 6 075 nouveaux cas signalés. Au milieu de tout ça, c'est un nombre encore élevé, les deux États poursuivent leurs efforts pour compléter le volet complet de la vaccination. Le ministre de la Santé du Victoria, Martin Foley, a déclaré que le gouvernement de l'État avait mis en place toute une gamme de cliniques éphémères dans les magasins type Bunnings de Melbourne et dans les régions également pour permettre à n'importe qui de pouvoir obtenir facilement sa troisième dose. On l'écoute.
What we need to do, particularly as we head in towards the winter season, is keep those vaccination levels up as high as we possibly can. And it's all about making sure that we have accessible and easy to get to locations.
Voilà, donc le ministre de la Santé du Victoria, Martin Foley, direction la Chine maintenant. La Chine qui fait également face à une forte hausse du nombre de cas de Covid dû au variant Omicron et qui décide de reconfiner la ville de Shenzhen dans le nord-est du pays. Ça fait quand même tout de même 9 millions de personnes qui sont donc maintenant confinées. La Chine, je vous le rappelle, essaye toujours d'atteindre le zéro Covid. Stéphane Lagarde.
Transport suspendu, entreprises non essentielles fermées et bien sûr des tests massifs pour traquer les cas contacts. La trinité du zéro Covid est de nouveau en place à Changchun. Deux nouvelles transmissions locales ont été détectées. L'inquiétude vient de Jilin, la mégalopole voisine où 93 cas ont été rapportés. La plupart des infections se seraient produites à l'université des sciences et technologies du même nom. Crier et confinement, colère des parents, pourquoi ont-ils autant tardé? Hurle cette parent d'élèves sur l'appli WeChat. Pourquoi avoir emmené nos enfants? Selon un étudiant sur le réseau Weibo, 300 bus auraient été mis à disposition et plus de 6500 élèves seraient actuellement en quarantaine. Comme les enseignants, des mesures drastiques pour tenter de bloquer le virus, car avec Omicron, même furtif, c'est tout ou rien et des cas positifs ont déjà été signalés dans 17 provinces. À Shanghai notamment, où les cours dans les écoles primaires et secondaires seront désormais dispensés en ligne.
Un mot de sport, maintenant on va parler de rugby. La France qui s'est imposée à Cardiff au Pays de Galles sur le score de 13 à 9, c'est dans le tournoi des 6 nations. Et maintenant la France qui peut se mettre à rêver d'un grand chelem la semaine prochaine, comme nous l'explique Olivier Pron qui a suivi ce match pour RFI, un match exaltant.
Ouais, sur le fil, hein. Vraiment, ils ont eu chaud, c'était irrespirable ici pour les 10 000 supporters français présents dans ce stade du Millennium, autrement appelé principalité, la principauté. C'est vrai que les Gallois se seraient bien vus princes ce soir, ils ont tout donné alors que les Français ont mené avec un très bel essai dès la 9e minute. Il y avait une pénalité de Jaminet avant, ils menaient les Français 10 à 3. La 9e minute, je vous l'ai dit, cet essai de Jelonche. Et puis après, quasiment plus rien, 3 points, si quand même marqués par Jaminet à la 46e minute, des points importants car entre-temps, les Gallois ont bénéficié des pénalités sifflées contre les Français. 7 à l'heure de jeu, c'est beaucoup trop, mais les Gallois sont toutefois toujours restés derrière et les Français ont eu ce supplément d'âme. Quand on ne sait plus attaquer, il faut être solide en défense et c'est sans doute ce qui résume le mieux cette rencontre. Solide en défense, vraiment solide, solidaire. Et à l'arrivée, ils ont préservé ces 4 points d'avance et bien plus que cela, parce que cette 4e victoire de rang, donc 13 à 9 ici face aux Gallois, elle ouvre les portes d'un grand chelem que les Bleus n'ont pu réaliser depuis 12 ans. Ce sera samedi face aux Anglais. Et puis les Français prennent quoi qu'il arrive une très grosse option sur la victoire dans ce tournoi. Mais le grand chelem, ce serait quand même la cerise sur le gâteau. Voilà, ils ont été solides, ils ont assuré l'essentiel. Et comme on dit dans ces cas-là, seule la victoire est belle.
Et oui, seule la victoire est belle. Et quelle est belle cette victoire donc de la France face au Pays de Galles. On a vraiment hâte de voir ce qui se passera dans ce match contre les Anglais la semaine prochaine. En sport, toujours, et en football, on va revenir sur la défaite du Paris Saint-Germain face au Real Madrid. C'était en 8e de finale de la Ligue des Champions. Le score 3 à 1, le Paris Saint-Germain éliminé. Et les supporters ne sont pas contents, Florilège.
Supporter du PSG depuis que je suis tout petit, et là, c'est juste la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Tous les ans, c'est pareil. On sait qu'on va se faire sortir d'une manière ou d'une autre. Voilà, c'était de la pire des manières. On prend deux buts en deux minutes, même pas une minute. Et c'est inacceptable. Genre, nous, supporters, on ne peut pas accepter ça. On adore nos joueurs, mais là, c'est pas possible.
Ce qui me désole, c'est que j'ai l'impression qu'on est habitué à cet ADN de loser, finalement. Et pour moi, le Paris Saint-Germain, c'est ces gens-là, c'est les supporters, c'est la beauté de l'ambiance qu'il y a à l'intérieur d'un bar. Et c'est pas ce qu'ils ont conduit sur le terrain, malheureusement. Et attendait tellement mieux de cette année parce qu'on a recruté des grands joueurs, Lionel Messi, etc. Achraf Hakimi, enfin, on a la meilleure équipe du monde sur le terrain, sur le papier.
Voilà, donc l'ambiance à Paris, aux alentours des bars et des endroits où les gens se regroupent pour voir le football. Et pour le PSG, le sport d'ailleurs, on en reparle dans quelques instants. On parlera naturellement, encore une fois, de football, mais aussi de cyclisme avec Paris-Nice dans le journal des sports. Coup d'œil météo pour aujourd'hui, donc pour ce 12 mars à travers le pays. À Perth, il fera 29 degrés. Il fera 29 à Adélaïde également, 23 à Melbourne. Vous aurez 24 degrés à Canberra. Sydney, il fera 25. Newcastle, il fera 25 également, Brisbane 27, Cairns 33 degrés et à Darwin 33 degrés également. La côte est du pays, dans les grands titres qui pense un peu ses plaies et qui découvre un peu les dégâts après que les inondations aient ravagé certaines régions. Le Premier ministre Scott Morrison était à Hawkesbury, à Sydney. On l'a vu dans ce journal, les inquiétudes qui grandissent autour du fait que la Russie aurait menti ou décide de mentir sur les actions de l'Ukraine au sein même du Conseil de sécurité de l'ONU. Et en sport, on vient de le voir, la victoire, très belle victoire du pays de Galles dans le quatrième match du tournoi des Six Nations. Courte pause et on se retrouve pour le sport dans quelques instants.
Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/SBS French. Votre opinion sur les sujets qui vous intéressent. Envoyez un SMS au 04 88 79 93 23 ou rejoignez notre page Facebook pour participer à la conversation.
Journal des sports en ce samedi. On commence avec du football et les règles qui changent au niveau du Ballon d'Or. Le Ballon d'Or, c'est le trophée qui récompense le meilleur joueur du monde. Il a longtemps, depuis quelques temps, a été décerné entre Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi. Eh bien, les règles vont changer. Est-ce que au final, on aura un autre joueur élu meilleur joueur du monde? En tout cas, retour sur ces changements de règles avec Frédéric Suto.
Le premier changement, il concerne la période durant laquelle les joueurs seront jugés. Jusque-là, c'était l'année civile qui faisait foi. Ce calendrier ne coïncidait pas avec la réelle saison de foot qui, elle, va de août à fin juin, début juillet. Le Ballon d'Or va donc s'aligner désormais sur la saison sportive avec une récompense qui sera remise à l'automne. Mais ce n'est pas tout. Le jury va se resserrer. Ce ne sont plus 170 journalistes représentant chacun un pays qui voteront, mais 100 journalistes seulement, des jurés issus des 100 pays les mieux classés au classement FIFA. Pascal Ferré, rédacteur en chef de France Football, justifie cette décision en expliquant vouloir renforcer l'expertise des votants tout en luttant contre un certain gigantisme qui ne servait pas forcément, selon lui, la pertinence du Ballon d'Or. De même, les critères retenus pour évaluer les joueurs vont être revus. On va renforcer la performance individuelle plus que l'aspect collectif ou la compétition gagnée.
Voilà donc pour les changements au niveau du Ballon d'Or. Donc dans le football, on parle de cyclisme maintenant et Paris-Nice. Je vous rappelle que Paris-Nice est à l'antenne de SBS Télévision tous les soirs jusqu'à dimanche soir. Profitez du vélo, du cyclisme gratuitement à la télévision. Et en plus, hier, c'est un Français qui a gagné la sixième étape. Mathieu Burgaudeau de l'équipe Total Energy remporte magnifiquement le sprint et donc cette sixième étape. On l'écoute.
Non, c'était même pas prévu, j'attaque dans le final. J'ai demandé à l'oreillette si je pouvais y aller. Je voulais pas trop parce qu'on avait Nicolo, mais j'ai suivi les attaques. Puis après, je sentais que j'avais les bonnes jambes. Et voilà, je voulais vraiment pas avoir de regrets. Et trop de fois, j'ai hésité, je me suis pas fait confiance. Et là, j'ai dit vas-y, mets tout. Et sans regret, quoi. Même là, j'ai pas trop les mots. Je suis pas mal. J'ai eu tellement de galères. Mais mes premières années pro, ouais. Là, je suis vraiment content. Ouais.
Voilà donc pour la sixième étape. Le leader, c'est toujours Primoz Roglic. On l'écoute.
It's the beginning of the season. Like I said, it's every day really hard racing. So whatever I would say, it's hard to say. So hopefully I'm there with the best ones.
Primoz Roglic, encore une fois, le Paris-Nice, c'est en direct tous les soirs à la télévision sur SBS. Voilà, c'est tout pour le sport pour aujourd'hui. On fait une courte pause et on se retrouve dans quelques instants. Vous écoutez le programme en français et vous êtes sur Radio SBS. À tout de suite.
SBS Food a tous les ingrédients pour votre prochain repas. Vous y trouverez des milliers de recettes issues des cuisines du monde. Essayez les petits plats des experts de SBS Food et regardez comment ils les réalisent pas à pas. sbs.com.au/food.
C'était bien entendu, Benjamin Biolay, comment est à peine, qui fait partie de notre sélection musicale pour le mois de mars. Il est 13h25, on fait une courte pause et on part direction l'année 1930 et l'Inde et son début de révolution, tout de suite après ça.
Les programmes de SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez. Pour s'inscrire ou télécharger, www.sbs.com.au/french.
Notre rétro sonore pour aujourd'hui, nous sommes le 12 mars, direction l'année 1930. Le Mahatma Gandhi entamait dans l'Inde coloniale, alors dirigée par les Anglais, une marche du sel, un périple de 25 jours à pied jusqu'à la mer pour dénoncer l'occupant britannique et notamment cette loi coloniale qui imposait une taxe sur le sel et interdisait donc la vente ou la récolte aux indigènes. Cette marche pour le sel, symbole de la résistance non violente à l'occupant, sera un des leviers de la mobilisation qui conduira plus tard à l'indépendance de l'Inde. C'est notre rétro du jour avec des archives de l'INA et des extraits du film Gandhi, sorti en 1982.
Sous ces climats, monsieur, on ne vit pas si l'on n'a ni eau ni sel. En avoir l'absolu contrôle, c'est donc contrôler le pouls de l'Inde.
Le 12 mars 1930, Mohandas Gandhi quitte son lieu d'ermitage, l'ashram de Sabarmati à l'ouest de l'Inde, entouré de quelques dizaines de disciples. C'est le début de la marche du sel, une campagne de désobéissance civile massive qui va marquer un tournant majeur dans l'histoire de l'Inde.
Ignorons-les, qu'ils les brandissent leurs infâmes bannières, qu'ils ramassent son sel. Cela ne deviendra symbolique que si nous faisons leur jeu.
C'est dans une Inde sous domination britannique que Mohandas Karamchand Gandhi voit le jour en 1869 dans le Gujarat. Devenu avocat après des études à Londres, le jeune Gandhi s'installe en Afrique du Sud, une autre colonie anglaise, où il défend la communauté indienne contre le racisme institutionnalisé des colons blancs. C'est là qu'il élabore les fondements de sa pensée politique, le Satyagraha, une doctrine qui repose sur la non-violence pour lutter contre l'oppression.
Le général Elgar a raison. Ignorons-les. Monsieur Gandhi découvrira qu'il faut infiniment plus qu'une pincée de sel pour mater et abattre l'Empire.
Surnommé le Mahatma, qui signifie « grande âme » en hindi, Gandhi rentre en Inde où il est désormais célèbre. Bien décidé à libérer son pays de la tutelle britannique, il prend la tête du Parti du Congrès, principal mouvement autonomiste de l'Inde. Des millions d'Indiens entendent son appel à la désobéissance civile. Lui-même multiplie les manifestations et les grèves de la faim.
L'homme a besoin de sel, comme il a besoin d'air et d'eau. Ce sel, justement, provient de l'océan Indien. Donc, chaque Indien peut le réclamer comme son dû.
En 1930, l'Inde est soumise à un certain nombre de lois coloniales. Parmi elles, l'acte de 1882, qui impose une taxe sur le sel et en interdit formellement la vente et la récolte aux indigènes. C'est contre cette loi injuste que Gandhi décide de se dresser en bravant l'interdit pour récolter une poignée de sel. Un geste simple, non violent et à la portée de tous, qui fait de ce bien vital le symbole de la contestation coloniale.
Il marchait aussi bien hindou que musulman, la tête haute, sans espoir d'échapper aux blessures ou à la mort.
Pendant 25 jours, la frêle silhouette du Mahatma marche en direction des marais salants de Dandi pour y défier l'Empire britannique. Progressivement, le mouvement prend de l'ampleur. Le cortège est rejoint par une foule immense et suivi par des journalistes du monde entier.
Les femmes tiraient les blessés aux membres brisés à même le sol, jusqu'à ce que d'épuisement elles tombent à leur tour. Stop ! Malgré cela, la marche a duré. Stop !
Le 6 avril 1930, au terme d'une épopée de plus de 380 km, les marcheurs arrivent à Jalalpur, au bord de l'océan Indien. Aux côtés de Gandhi, comme dans le pays tout entier, des milliers d'hommes et de femmes plongent leurs mains dans l'eau pour remplir des récipients d'eau salée. Le mouvement, non violent, est très vite réprimé. Le 4 mai 1930, comme des milliers de personnes, Gandhi est arrêté et mis en prison. Mais la désobéissance civile se poursuit et d'importants mouvements de protestation éclatent partout en Inde. L'administration britannique est contrainte de négocier. Après 9 mois d'incarcération, Gandhi est invité à participer à une table ronde à Londres et ouvre les débats sur l'indépendance du pays. Mais il faut encore attendre 16 ans pour que l'indépendance de l'Inde soit déclarée, en 1947. Malgré les efforts de Gandhi pour préserver l'unité du pays, l'Inde est divisée en deux nations indépendantes, tant à majorité musulmane et l'Inde elle-même à majorité hindoue. Un divorce qui déclenche d'effroyables affrontements et l'exode de millions de personnes. Pour l'apôtre de la non-violence, cette victoire a donc un arrière-goût amer. Un an plus tard, Gandhi est assassiné par un fanatique hindou, victime de la haine qu'il a si brillamment combattue.
Vos conversations. SBS French.
Et c'était Vanessa Paradis avec cette chanson Vagalam. Vagalam Sœur, d'ailleurs, le titre exact de la chanson Vanessa Paradis, qui fait partie de notre sélection musicale. Encore une fois, pour le mois de mars, 13h35, courte pause, et on part direction eh bien, la frontière entre la Pologne et l'Ukraine, comme promis. Et on parlera donc à une journaliste sur place, journaliste indépendante, qui nous racontera exactement ce qui se passe sur place avec les réfugiés ukrainiens. C'est tout de suite après ça.
Vous êtes avec Radio SBS en français.
D'après les Nations Unies, au total, près de 4 millions de personnes pourraient quitter l'Ukraine. Leur but est de fuir la guerre déclarée par le président russe, Vladimir Poutine. Ils partent parfois en voiture, souvent en bus, voire à pied. Près d'un tiers d'entre eux se rendent en Pologne et au checkpoint frontalier. Ce sont plus de 100 000 personnes par jour qui arrivent épuisées. Emmanuelle Chaz est une journaliste française basée à Berlin, spécialiste des questions migratoires. Dès le début de cette guerre, elle s'est rendue à Rébéné, à la frontière polonaise. Elle nous raconte comment la solidarité s'est organisée en seulement quelques jours.
Quand je suis arrivée au point de Rébéné, où je suis restée pendant une semaine, ce qui était impressionnant, c'est que au jour d'arrivée, c'était lundi, donc c'était quelques jours à peine après le début de l'invasion, et rien n'était en place. En fait, ce qu'on voyait, c'était un petit feu de bois pour que les gens puissent se réchauffer, donc vraiment un feu de fortune pour apporter un peu de chaleur. Il y avait une grande bonbonne à thé et puis c'était tout. Après, sur les jours qui ont suivi, il y a eu des ONG qui ont commencé à arriver pour pouvoir distribuer des boissons chaudes, de la soupe, etc. Ça s'est mis en place très rapidement. Très rapidement, il y a eu des bus qui ont été organisés par le gouvernement polonais pour acheminer les gens qui venaient de passer la frontière dans des centres d'accueil. Donc ça, je l'ai vraiment vu se développer sous mes yeux. Et puis évidemment, ce qui était impressionnant, c'est de voir les gens traverser à pied, qui arrivaient avec leurs petites valises à roulettes, qui regardaient sur leurs applications voir où ils se situaient et qui étaient complètement perdus. Ça, c'était vraiment très impressionnant.
Une vague humanitaire qu'elle a pu constater à la frontière, mais qui s'est aussi étendue sur tout le territoire polonais.
C'est intéressant de voir à quel point les Polonais se sont mobilisés, non seulement à la frontière, mais même dans la capitale. J'ai pu rencontrer des gens qui hébergeaient, qui ont immédiatement ouvert leur maison. Les restaurants distribuent des repas gratuitement. Certains hôtels aussi mettent des chambres de côté juste pour les réfugiés. Évidemment, c'est gratuit pour eux. Tous les transports en commun sont gratuits pour les Ukrainiens. Et même quand les Ukrainiens arrivent en voiture à la frontière, on leur donne immédiatement tous les visas, même l'assurance auto, pour qu'ils puissent immédiatement, sans problème, circuler en Pologne. Donc ça, c'était aussi impressionnant à voir.
Rapidement, une polémique est née, celle de l'apparente distinction de traitement entre les réfugiés ukrainiens et les réfugiés étrangers.
Les gens que j'ai rencontrés m'expliquaient que souvent il y avait eu des problèmes pour monter dans les bus, monter dans les trains du côté ukrainien. Il faut savoir que pour embarquer, il y a une priorité qui est donnée aux femmes et aux enfants, ukrainiens d'abord, ensuite aux hommes. Alors il y a un screening au niveau des hommes puisque les hommes en âge de se battre doivent rester dans le pays. Et après, ce sont les étrangers. Donc c'est vrai qu'il y a cette différence qui est faite. Après, j'ai aussi entendu des témoignages, donc pas directement, mais d'étrangers qui avaient des amis qui ont subi des discriminations raciales. Donc, c'est des incidents qui ont effectivement eu lieu. Après, ceux que moi j'ai vus ont pu passer la frontière en Pologne où souvent ils ont été accueillis par des représentants de leur ambassade qui les ont pris en charge.
Au-delà de la Pologne, c'est toute l'Europe qui semble mobilisée. La semaine dernière, la Commission européenne a appliqué une directive accordant la protection temporaire à toutes les personnes fuyant l'Ukraine.
Je travaille sur les routes migratoires depuis plusieurs années maintenant, donc j'ai déjà pu voir comment l'Europe accueille ou n'accueille pas justement un nombre important de personnes qui tentent d'arriver en Union européenne. Ce qui est vachement intéressant cette fois-ci, c'est de voir que finalement, lorsqu'il y a une volonté, ça fonctionne pas très bien, c'est vrai, mais en tout cas, par exemple, la Pologne est en train de réaliser un effort de solidarité qui est vraiment sans précédent et l'ouvre ses portes à l'heure où on parle à plus d'un million de personnes et c'est des milliers de personnes qui arrivent tous les jours encore sur le territoire polonais. Donc finalement, ce que ça met en lumière, c'est que l'Europe est capable d'ouvrir ses frontières sans condition. Simplement, ce que ça met aussi en lumière, c'est le fait que c'est une solidarité, mais une solidarité qui est sélective dans le sens où cette fois-ci, ça a été très simple, alors qu'il y a plein d'autres occurrences où ça n'a pas été le cas. Je pense à l'hiver dernier avec la crise humanitaire qui s'est déroulée à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie, mais je pense bien évidemment aussi à la frontière maritime qui est celle de la Méditerranée, avec la Méditerranée centrale qui est une route extrêmement meurtrière que des milliers de personnes tentent tout de même de prendre chaque année pour essayer de rejoindre l'Europe.
Et pour Emmanuel Chaz, cet exode massif aura de grandes conséquences.
Je pense que l'impact, il sera énorme. Il sera non seulement humain, il sera également économique pour l'Europe. Le côté positif, c'est qu'on a vu que finalement, l'Union européenne, aussi divisée soit-elle sur les politiques à mener dans d'autres contextes, on a vu que l'Union européenne a réagi extrêmement vite, par exemple pour les sanctions, par exemple pour l'envoi d'armes. Chaque pays a décidé d'envoyer des armes à l'Ukraine, finalement, même si l'OTAN a bien spécifié qu'il n'interviendrait pas sur la zone. Ça aura forcément un impact, ça va changer nos sociétés profondément, ça changera notre démographie de façon profonde, mais je pense que l'Union européenne est capable d'absorber cette nouvelle population qui la rejoint.
En grande majorité, ces réfugiés n'ont pourtant pas l'intention de s'installer dans un autre pays européen à long terme. Leur souhait, c'est de retourner en Ukraine.
Ce qui pose problème, c'est que ce ne sont pas des personnes qui ont choisi de partir. C'est des personnes qui ont été forcées de partir puisque leur maison se trouvait soit menacée de bombes, soit vraiment sous les bombes. La plupart des Ukrainiens à qui j'ai parlé à la frontière n'imaginaient pas partir un jour et surtout ils n'imaginent pas rester dans les pays d'accueil. Pour eux, c'est une immigration qui est temporaire, qui est pas volontaire. Et tous ceux qui m'ont parlé m'ont dit « on espère que ça se finira bientôt pour qu'on puisse bientôt rentrer chez nous ».
Il y a les millions de personnes qui fuient l'Ukraine, il y a aussi ceux, beaucoup moins nombreux, qui s'y rendent, de jeunes hommes qui prennent les armes et partent se battre.
Dans l'autre sens, la route était beaucoup moins fréquentée. Pourtant, il y avait quand même des dizaines d'hommes, souvent assez jeunes, qui s'étaient équipés eux-mêmes à leurs frais avec de l'équipement militaire, et qui repartaient se battre pour leur pays. C'est des Ukrainiens qui habitaient auparavant en Pologne, pour ceux que j'ai rencontrés, et qui, à peine l'invasion avait commencé, n'ont pas hésité une seule seconde. Ils se sont équipés, ils ont pris 2-3 jours pour s'organiser, pour former un petit groupe, et ils allaient rejoindre l'armée ukrainienne. Donc, ils savent très bien en partant que l'armée ukrainienne est en situation d'infériorité par rapport à la taille de l'armée russe. Ils savent très bien aussi que l'issue pour eux ne va sans doute pas être heureuse. Et pourtant, il y a cet élan de patriotisme qui est assez impressionnant à voir. Ils sont partis vraiment sans hésitation pour se battre pour leur pays.
À ce stade, la guerre en Ukraine se poursuit depuis 2 semaines. Des milliers de personnes sont décédées, des soldats, mais aussi des civils, parmi lesquels des enfants. Des officiels russes et ukrainiens ont tenté de négocier à plusieurs reprises, toujours en vain.
Votre communauté, vos conversations. SBS French. SBS en français est disponible quand vous le souhaitez. Écoutez nos rubriques à travers nos podcasts sur votre tablette ou votre mobile gratuitement sur sbs.com.au/french ou téléchargez l'application SBS Radio.
Chaque jour, il faut s'y faire. Elle revient toujours la colère à nous grignoter le cœur.
C'était Gaëtan Roussel, La Colère, très belle chanson donc de Gaëtan Roussel qui fait partie de notre sélection musicale encore une fois et une nouvelle fois pour le mois de mars, 13h47. Et si on parlait d'un petit peu de Sigmund Freud et si on se rendait dans sa dernière session, c'est imaginaire bien sûr, c'est avec Yannick Laurie.
Les programmes de SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez. Pour s'inscrire ou télécharger, www.sbs.com.au/french.
Aujourd'hui, on va parler de théâtre dans le programme en français sur Radio SBS. On a le plaisir d'avoir Yannick Laurie avec nous. Il va nous présenter une pièce qui s'appelle Freud's Last Session. C'est tout un programme. Bonjour Yannick.
Bonjour Christophe.
Alors c'est tout un programme, Freud's Last Session, parce que déjà on va penser et on va parler des sessions sur la psychologie, la psychanalyse avec Sigmund Freud. Parlez-nous un petit peu de cette pièce. Donc on se rend dans la dernière session donnée par Freud.
Alors c'est la dernière session donnée par Freud, mais en fait c'est pas tout à fait vrai. C'est imaginé comme session. Alors, c'est une session entre Freud lui-même, près de la fin de sa vie. Il a 83 ans. Et puis, l'écrivain C.S. Lewis, qui a écrit les livres, la série des livres qui s'appelle Narnia, The Chronicles of Narnia. Alors, bien sûr, C.S. Lewis, il était chrétien, il était croyant. Et Freud, tout à fait l'inverse, pas du tout. Pour Freud, c'était la vie matérielle plutôt que la vie spirituelle. Alors, ce qu'on trouve dans la pièce, c'est un grand débat et une grande discussion sur les deux sujets. Mais tout ça est mis en scène le jour que le Royaume-Uni entre dans la Deuxième Guerre mondiale. Alors, il y a une sens d'urgence aussi pour cette discussion.
Alors, comment se déroule la pièce, justement? Expliquez-nous. Vous parlez de cette dernière session qui est imaginaire. On ne sait pas ce que ça a été, sa dernière session. Donc, du coup, on va l'imaginer. Mais surtout, vous parlez justement de cette entrée en guerre du Royaume-Uni. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a la guerre, encore une fois, à la porte de l'Europe. Donc, on peut un peu imaginer ce que ça pouvait être. Mais,
oui.
mais vraiment, le moment a été quand même très spécial pour le Royaume-Uni aussi.
Oui, très très spécial. Bon, dans l'intrigue de la pièce, quand même, le 3 septembre 1939, c'était en fait 2 semaines avant que Freud est mort. Et en fait, on dirait qu'il s'est suicidé. Et puis, à la fin de sa vie, il voulait vraiment savoir ce que c'était la réalité. Il a passé sa vie à vraiment se posait des questions sur les fantaisies, mais il voulait vraiment savoir ce que, de quoi ça s'agissait, la réalité. Alors, il invite le écrivain C.S. Lewis pour débattre sur le sujet. Et en fait, les deux écrivains, les deux académiques, se sont bien critiqués dans la vie. Alors, il y a beaucoup de matériel pour l'écrivain de cette pièce, Mark St. Germain, pour de tirer dessus pour vraiment nous donner un peu une fenêtre, disons, dans la vie et dans les pensées des deux hommes.
Alors, parlez-nous de vous un petit peu, Yannick. On sent que vous parlez très bien le français. Il y a un petit accent quand même, donc vous n'êtes pas français, mais il y a une belle relation avec la France. Votre maman était française et vous avez un prénom, Yannick.
Oui, voilà, ma mère était française, et puis oui, j'ai le nom Yannick parce que mon père, il s'appelle John, et puis ma mère a dit, bah, on fait pas vraiment ça en France, on n'appelle pas le fils aîné après son père. Alors ils ont cherché un nom qui voulait en fait dire John ou Jean, et voilà Yannick. Et oui, ma mère m'a parlé en français toute ma vie, et même maintenant que j'habite ici en Australie, on parle une fois par semaine en français. Et j'ai fait des études en français, j'ai pu vivre un an à Paris où j'ai travaillé comme assistant d'anglais dans un lycée à Paris. Et puis voilà, en ce moment, j'ai pas autant d'occasion de parler français que j'aimerais bien, mais au moins une fois par semaine, comme j'ai dit, je parle avec ma mère. Alors, je garde un peu cette partie de mon héritage vivant.
D'accord, ouais, bah c'est très bien pour l'instant, il n'y a pas de problème. Hein. Parlez-nous de votre rôle dans cette pièce. Vous êtes qui, vous jouez qui, vous incarnez qui ?
Alors, je joue le rôle de C.S. Lewis. Il est vraiment un homme très... Il a eu une bonne éducation et il est vraiment un expert en théologie et aussi la philosophie. Alors, je joue son rôle. Il vient juste de devenir, on dit en anglais, Don à Oxford University. Alors, il est assez connu à ce moment-là et il vient juste d'avoir cette expérience où il s'est converti je ne sais pas qu'on dit ça en français, mais il s'est converti en chrétien. Et alors c'est à ce moment-là, parce que auparavant il n'était pas du tout, il était tout à fait athéiste. Alors c'est pour ça que Freud l'invite. Alors c'est moi qui joue ce rôle-là, un homme assez jeune qui vient pour vraiment expliquer pourquoi il croit ce qu'il croit.
Ça fait partie de Clock and Spiel Production et ça se passe au Riverside Theatre, donc à Parramatta à Sydney. On va donner les dates, hein, du 9 au 12 mars. Qu'est-ce qu'on peut attendre de cette pièce ? Parce que le théâtre, ça change la vie. Souvent, on ne ressort pas le même qu'on est rentré dans une pièce de théâtre. Là, c'est un sujet qui est quand même assez important. Est-ce que vous pensez que ça change un peu, ça peut changer la perspective sur certaines choses ?
Moi, j'aime beaucoup cette pièce et surtout non seulement les sujets que les personnages, les caractères dans la pièce discutent, mais vraiment parce que ils sont deux hommes qui sont vraiment à chaque côté du débat. Vraiment, il n'y a pas un endroit commun qui peuvent occuper. Alors, ce que j'aime beaucoup, c'est que ils peuvent avoir ce débat assez fort l'un avec l'autre, mais ils maintiennent toujours un respect, quoi, pour l'un pour l'autre. Et en plus, même après un grand argument, beaucoup de drames, il y a les sujets qui sont des grands sujets, mais deux hommes qui sont tout à fait dans des côtés opposants du débat sur ce que ça veut dire, pourquoi la vie est-elle importante, mais ils gardent toujours un respect l'un pour l'autre. Et c'est ça en ce moment avec notre pays, même notre terre polarisée, que j'aime beaucoup dans cette pièce.
Oui, et puis il y a cette notion, puis pour finir, il y a cette notion de dire que quelqu'un comme Sigmund Freud aurait pas pu rencontrer C.J. Lewis. Ça reste quand même deux esprits très importants du XXe siècle. Qu'est-ce qui aurait bien pu se passer dans une session comme ça ?
Ben voilà, et puis je pense qu'en fait l'écrivain Mark Saint-Germain a bien imaginé la situation.
Voilà, on va laisser le reste au mystère, parce que c'est. j'espère qu'on a donné assez envie aux gens de venir. Donc ça s'appelle Freud's Last Session, c'est donc Clock and Spill Production, comme je l'ai dit. C'est au Riverside Theatre à Parramatta à Sydney. Donc à Sydney, vous avez de la chance. S'il arrête de pleuvoir d'ailleurs, vous avez un peu de chance pour y aller. C'est du 9 au 12 mars, il y a un petit peu de temps. Merci Yannick.
Merci Christophe.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Et vous avez reconnu Noé Prezzo avec Que tous dansent, chanson qui fait partie de notre sélection musicale, encore une fois. En cette fin de programme, coup d'œil, bien retour sur les grands titres de l'actualité pour aujourd'hui. Scott Morrison, le Premier ministre, qui est en visite dans les régions de Hawkesbury à Sydney, région bien entendu affectée par bien les inondations ces quelques temps, la région, toute la côte Est. Hein. Bonne chance à vous si vous êtes affecté par ces inondations. C'est une grande journée pour vous de nettoyage, on le suppose. Les inquiétudes qui grandissent également entre la Russie et l'Ukraine. Au Conseil de sécurité, la Russie accuse l'Ukraine d'avoir fait œuvre d'un programme chimique. Voilà, c'est la fin du programme pour aujourd'hui. Le prochain rendez-vous avec le français, eh bien, c'est demain à 13h. Et puis, bien entendu, mardi et jeudi à 13h également. Bon après-midi à tous et bon appétit si vous êtes toujours à table. À demain.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci ? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.